Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée, et je voulais voir avec vous aujourd'hui un thème bien particulier puisque nous sommes au milieu de la Semaine Sainte, le thème de la croix. Oui, nous prenons un petit peu d'avance, vous m'en excuserez, mais il y a de tels chefs-d'œuvre qui ont été composés à cette occasion que je voulais en partager quelques-uns avec vous. Et naturellement, comme la présentation générale du missel romain dit que la part doit être faite lors du carême au chant, eh bien il n'y aura pas d'orgue cette fois-ci, mais ne vous en faites pas, l'orgue aura sa revanche pour le jour de Pâques. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est donc le thème de la croix, de la crucifixion, et vous allez l'entendre, de très très belles œuvres ont pu être composées à cette occasion-là, et on va commencer avec la musique baroque. Les deux premiers morceaux d'ailleurs que je vais vous présenter sont de la musique baroque, mais très différents les uns des autres, vous allez bien entendre. Il s'agit de l'un des tubes de la musique sur le thème de la crucifixion, avec le Crucifixus de Antonio Lotti, enfin l'un de ces Crucifixus, puisqu'il en a composé plusieurs. Antonio Lotti, c'est un très grand compositeur, né à Venise le 5 janvier 1667 et mort dans cette même ville le 5 janvier 1740. Il a été tour à tour compositeur, organiste, maître de chapelle de cette période de la musique baroque. Il a fait toute sa carrière dans la basilique Saint-Marc. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette basilique, notamment avec ses illustres prédécesseurs, en premier lieu, bien entendu, Gabriel Lee. Eh bien, c'est un compositeur absolument génial qui se met dans cette mouvement, dans cette tradition des anciens maîtres. Pourquoi, souvenez-vous, ça aussi je vous en avais déjà parlé, il y avait eu ce fameux concile de Trente qui disait qu'il fallait se rapprocher le plus possible de la musique grégorienne ou alors d'un autre grand maître, Palestrina. Et en fait, bien qu'on se situe dans un temps bien plus tardif, Antonio Lotti a pris ça au pied de la lettre et il compose beaucoup dans ce style-là, dans le style palestrinien. Je vous avais notamment parlé de ce style antico, de cette façon de composer qui était sur les grands maîtres anciens, donc palestrina. Et donc, Lotti compose dans cette manière-là et notamment dans ce Crucifixus, une pièce absolument extraordinaire, c'est le Crucifixus à 8 voix dont je vais vous parler, c'est-à-dire que chaque pupitre va être divisé en deux et vous allez l'entendre, c'est une merveille de composition qui, dès les premières mesures, fait un effet absolument extraordinaire. Et donc, vous allez l'entendre, dès le début, il y a une gradation qui va se faire dans la douleur. C'est un processus que vous allez entendre sur les trois chants que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est celui de la dissonance, c'est-à-dire que ça s'oppose à l'harmonie. En musique, quand vous parlez d'harmonie, ça veut dire en gros que ça sonne bien, que vous avez une couleur agréable à l'oreille. La dissonance, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que ça va venir frotter à votre oreille, ça va venir vous choquer. Et en fait, le choc, ici, s'entend naturellement parce que vous allez avoir les échardes du bois de la croix dans le corps du Christ, tout simplement. Et bien musicalement, c'est rendu par ces dissonances, ces secondes mineures extrêmement proches qui vont venir frotter à l'oreille. D'autres compositeurs que Lotti d'ailleurs ont utilisé ce processus, je pense par exemple au Stabat Mater de Pergolèse qui commence avec exactement le même procédé. Et donc vous allez entendre ici, la croix va être évoquée d'ailleurs avec une forme de montée, comme si la croix s'élevait sous nos yeux avec le Christ crucifié dessus, et la douleur va monter au fur et à mesure que les voix vont s'ajouter les unes aux autres. C'est extrêmement spectaculaire, extrêmement douloureux, et bien entendu, il y a cette attente. Parce que quand on fait une dissonance, notamment dans cette époque-là, on attend, c'est presque canon, une résolution. Et vous allez l'entendre, il faut que toutes les voix se rejoignent comme une espèce d'immense plainte pour que, in fine, nous ayons cette espèce de détente. Et ensuite, on va avoir un côté beaucoup plus narratif, notamment quand va être évoqué Ponce Pilate, avec comme si on devait effectivement raconter ce qui se passait là. Mais véritablement, je voulais apporter à votre attention le début de cette œuvre, assez magistrale, pour que vous compreniez quelques petites clés qui vous donneront à comprendre et apprécier ce merveilleux Crucifixus. Voici donc le Crucifixus à 8 voix d'Antonio Lotti. Thank you. Et le morceau se termine comme ça, avec cette fameuse tierce picarde, alors que tout le morceau était en mineur, comme s'il y avait finalement un petit peu d'espérance à la fin de ce terrible moment de la crucifixion. Et naturellement, là, c'est tout le génie de ces compositeurs baroques qui étaient capables de donner autant de sublimes, autant d'images, avec aussi peu de mots, puisque c'était la musique qui se chargeait de tout. Maintenant, mesdames et messieurs, que nous avons écouté ce premier Crucifixus, absolument magistral, je vous propose d'écouter... le chef-d'œuvre absolu du genre, le Crucifixus de la messe en si de Jean-Sébastien Bach, l'une des œuvres les plus connues, l'un des sommets, des Everest de toute la musique occidentale. Pourquoi est-ce que ce Crucifixus a une place spéciale? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une œuvre de maturité de Bach. D'ailleurs, il est mort peu après avoir composé cette messe. C'est une messe absolument splendide. Alors, on n'aurait pas assez d'une émission pour en parler, naturellement. C'est pour ça que je vais vous donner quelques petites clés de lecture, comme d'habitude, pour que vous puissiez apprécier, au-delà même de la musique si particulière du maître de Leipzig. Alors, déjà, cette messe en si, parlons-en un petit peu, elle est spéciale à plus d'un titre, bon, non seulement parce que je considère que c'est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, mais en plus parce que c'est une œuvre catholique, et ça, il faut bien le noter, vous aurez constaté que c'est une des rares œuvres qui était écrite en latin de la part du compositeur, et donc forcément, elle a une place tout à fait spéciale. Alors, il y a dans le texte quelques petites ambivalences qui montrent le côté protestant, mais il n'en reste pas moins que c'est une œuvre catholique, donc une œuvre particulièrement spéciale dans le cœur de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a chez Jean-Sébastien Bach beaucoup de figuralisme, notamment dans les nombres, les choses comme ça, où il y a beaucoup de symbolisme. Et ça se vérifie notamment dans la structure, l'architecture globale de la messe, où le Crucifixus tient une place absolument centrale. Et en fait, il y a presque autant de morceaux qui se passent avant que après. C'est donc un des morceaux centraux de toute cette énorme fresque qu'est la messe en si de Bach. Et donc ça fait comme une sorte de chiasme. Un chiasme, c'est une forme de grand X. Et un X, c'est bien entendu la croix. Donc déjà dans la symbolique, vous avez une forme véritablement de mise en avant du côté de la croix. Et ensuite, naturellement, c'est la musique qui va parler. Et là, on ne va pas être au bout d'une surprise. Il y a des choses énormes à tout bout de champ. Alors déjà, ça a été composé à peu près de manière à ce que le figuralisme, là aussi, soit extrêmement parlant. Ça a été composé, alors ne serait-ce que la métrique, c'est-à-dire le rythme. Il est composé à 3-2. 3-2, ça veut dire que vous avez 3 temps par mesure, 3 blanches ici. Alors pourquoi c'est important? Un, parce que naturellement 3, c'est la Trinité, mais c'est également les clous que vous retrouverez dans le corps du Christ. Donc là, une symbolique qui est extrêmement importante. Et ensuite, vous allez entendre le continuo. Le continuo, ce sont les notes graves qui, en fait, sont des noirs un petit peu piqués, qui sont comme si on avait une forme de marche funèbre, comme un rythme implacable qui continue de mesure en mesure, sans jamais s'essouffler, comme si on allait tout droit vers le calvaire. Et vous avez cette espèce d'échange qui se donne vraiment entre les cordes et les flûtes, avec beaucoup de coups, comme si effectivement c'était les coups qui étaient donnés pour enfoncer les clous dans la chair du Christ, qui sont ici parfaitement figuratifs. Et ici, comme chez Loti, on est toujours chez deux compositeurs baroques. Alors, Loti avait ce style antico. Ici, Bach là, est au sommet de son art proprement de Jean-Sébastien Bach. Il va utiliser un processus inverse. Alors, certes, il va utiliser la dissonance, mais ici, on va partir des voix aiguës et on va aller vers le grave. En fait, pourquoi? Parce que ça suit l'incarnation, tout simplement, et parce qu'il y a ce côté descendant. En fait, là, il va faire du Christ quelqu'un de profondément humain, avec des souffrances parfaitement humaines, et c'est pour ça qu'on va avoir ce mouvement très descendant, en fait, comme si on allait annoncer la descente aux enfers du Christ. Et là, c'est parfaitement figuratif, vous allez l'entendre. Et enfin, on va terminer exactement de la même manière que vous avez entendu chez Loti, par une fin totalement surréel, avec une modulation, c'est-à-dire qu'on va changer la tonalité et on va passer là aussi en majeur, mais c'est un son presque irréel, une tonalité qu'on n'attendait pas là. Vous allez entendre, c'est presque perturbant, mais après tout, quand on parle de la croix, ne doit-on pas être choqué? Voici donc le Crucifixus de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Ne vous avais-je pas promis une surprise à la fin, cette modulation extraordinaire en sol majeur, alors que nous étions en mi mineur, le reste du morceau, quelque chose de totalement inattendu, comme la mort du Christ d'ailleurs, qui là aussi nous donne matière à réflexion, tant la catéchèse de la musique est puissante, et tant effectivement la force du maître de Leipzig là aussi nous pousse à davantage de prières et de réflexion. Un morceau absolument magistral. Naturellement, vous n'avez ici qu'un bref aperçu de l'immense talent de Jean-Sébastien Bach. Je vous invite à découvrir le reste de sa messe en si, une œuvre absolument extraordinaire. Naturellement, j'aurais pu vous parler de la Passion selon saint Jean, de la Passion selon saint Matthieu, deux autres de ces magnum opus, mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire découvrir cette petite pépite-là à mettre en lien avec celle que vous avez entendue avant et celle que je vais vous présenter maintenant, extrêmement différente. Il s'agit d'une œuvre bien plus contemporaine, Sur la croix, composée par un compositeur qui est un compositeur de l'école contemporaine. On va plutôt aujourd'hui le classer dans les modernes. Il s'agit de Knut Nisdet, qui est né le 3 septembre 1915 à Oslo et qui est mort le 8 décembre 2014 dans cette même ville. Il a été compositeur, organiste, chef de chœur et pédagogue norvégien. C'est un grand monsieur de la musique nordique. Alors, il n'est pas très connu, bien que certaines de ses œuvres soient plus connues que lui-même. D'ailleurs, c'est assez particulier. Alors, c'est quelqu'un qui a puisé son inspiration chez Palestrina et dans le chant grégorien. Ça s'entend notamment dans ses vocalises. Vous savez, cette façon de chanter avec un suivi qui se fait et qui est assez presque intuitif. N'oubliez pas que le rapport entre le chant grégorien et l'âme est assez évident puisqu'il s'agit du souffle et c'est quelque chose qui a à cœur chez certains de ses compositeurs de mettre en avant. Et d'ailleurs, là, on est dans la même mouvance, je vous parlais du Concile de Trente, de cette façon de rendre hommage à sa manière, certes, mais à ce thème palestrinien et également au chant grégorien, c'est cette façon d'accompagner le souffle qui fait école. Donc Knut Nisdet a composé certaines œuvres absolument extraordinaires. Je vous invite notamment, alors on n'en parlera pas aujourd'hui, mais à écouter sa composition la plus connue, qui est Immortal Bach, qui est faite sur un des chorales de Jean-Sébastien Bach, merveilleusement harmonisé, et ensuite avec la musique qui va se détendre, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus choquante. Mais ici, dans ce chant au croux, vous allez l'entendre, là les oreilles vont vraiment être choquées. Parmi les divisions, parmi les dissonances, il s'agit d'un exercice total et absolu. Alors, bien entendu, la musique a été faite ici pour choquer, hein. C'est un moment qui n'est pas censé être agréable à l'oreille, mais là aussi, il y a des détentes. C'est-à-dire que, toujours chez ces compositeurs, on a le soin, notamment chez les compositeurs croyants, de montrer que la souffrance n'est pas vaine. De la même manière que chez les deux précédents, vous aviez une détente à la fin, là, au fil de l'œuvre, vous allez avoir des espèces d'accalmie dans la musique, de sorte à faire respirer l'auditeur, parce que vous allez entendre, c'est assez asphyxiant. Le morceau est un petit peu plus long que ce que vous avez entendu jusqu'à présent, 6 minutes, mais c'est quelque chose d'assez étouffant, d'assez oppressant, vous allez entendre, notamment avec les voix aiguës qui déjà ont un timbre de voix qui est un petit peu plus crispant et là, qui joue énormément avec les dissonances. Je vous avais notamment parlé des clusters, ces espèces de accords empilés les uns sur les autres qui sont faits pour déranger. Vous allez donc l'entendre ici, l'oreille est certes dérangée, mais la symbolique est d'autant plus forte, notamment avec les allitérations. Vous allez entendre les consonnes qui les s'entrechoquaient comme si c'était les os du Christ qui craquaient sur la croix. Là aussi, c'est un procédé qui est absolument important. On appelle ça d'ailleurs comme figure du style une forme d'hypotypose. C'est-à-dire que vraiment, par le texte, vous avez vraiment la figure qui se tient devant vous. Et là aussi, la musique y joue tout son rôle. Voici donc Au Crux de Knut Nisdet. Et c'est ainsi que se termine ce fantastique Horcrux de Knut Nystedt. Vous avez tous les ingrédients que nous avons vus précédemment. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir un morceau du XXe siècle et avec ces morceaux baroques qui utilisent finalement les mêmes procédés pour parler de la même histoire, comme quoi la musique se répond. Naturellement, c'est le propre des grands compositeurs qui agissent avec filiation pour rester dans cette mouvance et dans ce souffle-là. Voilà pour ces trois morceaux. J'espère que vous les avez appréciés et qui vous aideront à entrer dans cette semaine sainte avec ce vendredi saint si particulier. Il me reste quant à moi à vous dire à la semaine prochaine et notez dans vos agendas le prochain concert de la Schola Cantorum qui se tiendra le 26 avril à la Basilique Saint-Sernin, 20h30. Il s'agit d'un concert de musique baroque avec le grand chœur que je dirigerai et également les musiciens de l'orchestre de la Schola Cantorum dirigé par Étienne Berny, un très beau programme autour du Tour d'Europe musicale. Là aussi, je vous invite à prendre vos places sur le site de la Schola Cantorum. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.